Bien, je vous remercie d'être venu, bien que vous soyez progressivement moins nombreux. On sent que la fraîcheur arrive. Alors, je vous ai laissé en plein suspense, comme d'habitude, puisque, comme c'est une histoire qui, semble-t-il, n'a pas de fin, on sera toujours dans l'angoisse des événements à venir. La dernière fois, nous avions vu les nouvelles dynamiques provoquées par l'intifada, par la proclamation de l'État de Palestine, par le plan Shamir, qui est un peu une réponse un peu obligée ou contrainte au dialogue entre l'OLP et les États-Unis. Et nous avions terminé, si je ne me trompe pas, par l'enlèvement au Liban par l'armée israélienne du cher Obeid pour une prise d'otage pour négocier des libérations de prisonniers. Et cette action israélienne n'a pas de résultat efficace. La résistance islamique, puisque c'est le nom officiel du Hezbollah en tant que mouvement combattant, reprend ses opérations au Liban Sud. Le 9 août, un attentat suicide blesse 5 soldats israéliens à 3 km de la frontière. En même temps, le Hezbollah souligne qu'établir un lien entre l'affaire des otages occidentaux et les prisonniers israéliens faits au Liban et les prisonniers que les Israéliens détiennent, une sorte d'aveu de collusion, et complique encore plus le dossier, d'autant plus que le Hezbollah a toujours nié avoir une quelconque responsabilité dans l'affaire des otages occidentaux au Liban. Les semaines suivantes, les combats s'intensifient dans la zone de sécurité et l'armée israélienne multiplie les raids à l'extérieur de ce secteur. Alors, ce qu'on commence à percevoir à ce moment-là, c'est ce qui va être la stratégie du Hezbollah dans les années 1990, c'est-à-dire une stratégie d'escalade à chaque action israélienne majeure, afin de retourner contre les Israéliens le principe de dissuasion. Et de surcroît, la logique du martyr fait largement perdre aux otages détenus par Israël leur valeur d'échange, tout en accroissant la détermination de la résistance islamique à combattre l'ennemi israélien. Alors, dans la même période, du 4 au 8 août, le Fatah tient son 5e congrès à Tunis. Les opposants ont beau jeu de montrer que le dialogue avec les États-Unis n'a rien apporté de concret, mais on s'en tient dans les résolutions à la ligne adoptée au congrès d'Alger: droit au retour et à l'autodétermination, État de Palestine, conférence internationale. On marque l'attachement à la lutte armée, je cite, poursuivre et intensifier la lutte armée et toutes les formes de lutte pour mettre fin à l'occupation israélienne de la terre palestinienne et assurer le droit de notre peuple à la liberté et à l'indépendance. Et on rejette le plan Shamir au profit d'élections libres. Je cite, le 5e congrès du Fatah rejette le plan Shamir sur les élections et affirme que toute élection dans notre terre occupée doit avoir lieu dans un climat libre et démocratique, avec une surveillance internationale et après le départ des troupes israéliennes. Ces élections devront constituer une étape s'inscrivant dans un processus préétabli aboutissant à un règlement définitif. Là, vous avez sur la photo le congrès du Fatah, avec la banderole qui veut dire « L'État de Palestine est l'État pour tous les Palestiniens ». Et je ne peux pas lire la suite de la banderole parce qu'elle est cachée. Et le Congrès s'adresse aux États-Unis, ce qui est significatif des espérances palestiniennes à ce moment-là. Le Congrès demande aux États-Unis de reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et l'édification d'un État indépendant, d'abandonner sa politique d'alignement sur Israël ainsi que son soutien illimité qui conduit à la poursuite de l'occupation israélienne de la terre palestinienne et à l'aggravation des violations des droits du peuple palestinien. Le Congrès appelle les États-Unis à accepter la tenue d'une conférence internationale sur la paix au Proche-Orient dans les plus brefs délais, en application des résolutions qui ont été adoptées aux Nations Unies. Le Congrès demande également aux États-Unis d'abroger toutes les lois et réglementations hostiles à l'OLP adoptées par le Congrès américain afin que notre dialogue aboutisse à des résultats positifs. On note que la référence donc à la lutte armée, qu'on ne parle pas de la charte palestinienne de 1964-68. On insiste sur les résolutions 242 et 338, mais on ne dénonce pas explicitement le terrorisme. De ce fait, les réactions américaines sont tout à fait négatives. Là, vous avez une caricature américaine, qui n'est pas mauvaise du tout, sur ce qu'est le dialogue entre l'OLP et... on voit donc ce fil téléphonique sert plutôt à... comment dire, faire prisonnier un peu plus le Palestinien qu'autre chose. La quatrième session du dialogue entre l'OLP et les États-Unis se déroule à Tunis le 14 août. On est dans un dialogue de sourds. Les Américains demandent un acquiescement palestinien au plan Shamir, ce qui apparaît comme un ultimatum pour la partie palestinienne. Cette dernière demande aux Américains où sont les améliorations du plan promises par les États-Unis et à définir la résolution de la résolution 242 de ce que signifie vraiment des territoires contre la paix et les droits politiques. Les diplomates américains sont liés par leur instruction très restrictive et n'ont rien à répondre quand on leur fait remarquer que le plan égyptien négocié avec l'entourage de Peres, voire même le canal de communication ouvert avec Rabin, offre plus de perspectives que le plan Shamir. Car tout le monde sait que les Américains participent à ces deux initiatives parallèles. Autrement dit, le message implicite est que l'OLP ne doit pas se contenter du dialogue officiel et d'accepter de passer par la diplomatie secrète des intermédiaires. Aussi, quand l'OLP communique qu'elle est prête à accepter la constitution d'une délégation mixte comprenant des Palestiniens de l'intérieur comme de l'extérieur et chargée de négocier avec Israël, la diplomatie américaine transmet un refus israélien du fait même que Shamir refuse de prendre acte de toute communication venant du dialogue officiel avec l'OLP. Mais en même temps, Rabin fait savoir que l'on pourrait accepter des Palestiniens de l'extérieur comme conseillers de la délégation composée de personnalités de l'intérieur. Alors bon, tous ces dialogues peuvent vous paraître stériles, mais ce sera le contenu du cours de cette année encore. Car il faut bien comprendre que progressivement, on est en train de définir les formules qui conduiront aux accords d'Oslo à travers tous ces longs intermèdes diplomatiques. Au début de septembre, après un été sanglant où on a eu près d'un mort par jour dans les territoires et où la chasse aux collaborateurs s'est intensifiée, l'OLP est contrainte de se rabattre vers l'initiative égyptienne qui a le soutien officieux des Américains. Par l'intermédiaire de Rabin, Baker fait savoir qu'il attend des réactions israéliennes aux propositions de Moubarak. Ceci le 12 septembre 1989. Israéliens et Palestiniens se réuniraient au Caire. La délégation palestinienne pourrait comprendre des personnalités expulsées des territoires. Donc, ils seraient de l'extérieur puisqu'ils sont expulsés des territoires, mais ils sont des territoires puisqu'ils ont été expulsés des territoires, ce qui est logique en langage diplomatique. Shamir et Arendt s'en prennent à la diplomatie parallèle de Peres et de Rabin et multiplient les manœuvres dilatoires. Moubarak transmet alors une invitation officielle de venir au Caire pour rencontrer une délégation palestinienne. Rabin se rend seul au Caire pour rencontrer Moubarak, puis ensuite Arafat lui succède. Le 19 septembre, Arendt se rend aux États-Unis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Baker lui propose immédiatement une réunion tripartite avec le ministre égyptien des Affaires étrangères. Il considère que les 10 points égyptiens constituent une acceptation du plan Shamir. Mais Arendt et Shamir rejettent ce qu'ils appellent une capitulation. Finalement, Arendt rencontre Baker et Moubarak en marge de l'Assemblée générale. Le président égyptien veut pour le moins obtenir une discussion sur le contenu des propositions. Arendt le renvoie à Shamir. Finalement, on se met d'accord sur la formation d'une délégation palestinienne, mais non sur sa composition. Et l'ordre du jour de la réunion serait limité à la question des élections palestiniennes. Sur cette base, Arendt rentre en Israël le 4 octobre. Shamir transmet la proposition au ministre des Likoud. Mais l'Égypte, de son côté, propose un autre ordre du jour, ne limitant pas la négociation à la seule question des élections, ce qui est immédiatement accepté par les travaillistes. De ce fait, les débats sont orageux au sein du gouvernement d'union israélien. Le 6 octobre, le cabinet restreint israélien se divise par 6 contre 6 sur l'acceptation des propositions égyptiennes. Je rappelle que dans le système politique israélien, pour les décisions majeures, on vote au gouvernement. Donc, on ne vote pas simplement à l'Assemblée, à la Knesset, mais on vote à l'intérieur du gouvernement. Peres accuse Shamir de bloquer délibérément tout processus de négociation. Je cite, « Le Likoud n'a aucune proposition, il n'a qu'une offre qu'il juge intéressante, celle de créer de toutes pièces un nouveau peuple palestinien n'étant pas satisfait par celui qui existe. » Fin de citation. D'urgence, Baker présente 5 points définis comme la synthèse des discussions de New York. Donc je vais vous lire les 5 points de Baker. 1. Les États-Unis comprennent que parce que l'Égypte et Israël ont travaillé dur sur le processus de paix, il y a un accord pour qu'une délégation israélienne conduise un dialogue avec une délégation palestinienne au Caire. 2. Les États-Unis comprennent que l'Égypte ne peut pas se substituer aux Palestiniens et qu'elle consultera les Palestiniens sur tous les aspects du dialogue. L'Égypte consultera aussi Israël et les États-Unis. 3. Les États-Unis comprennent qu'Israël participera au dialogue seulement après qu'une liste satisfaisante de Palestiniens soit composée. Israël consultera aussi l'Égypte et Israël. 4. Les États-Unis, Égypte et les États-Unis, pas Israël, c'est un lapsus d'écriture. 4. Les États-Unis comprennent que le gouvernement d'Israël viendra au dialogue sur la base de l'initiative du gouvernement israélien du 14 mai, donc le plan Shamir. Les États-Unis comprennent de plus que les Palestiniens viendront au dialogue pour discuter des élections et des négociations en accord avec l'initiative d'Israël. Les États-Unis comprennent cependant que les Palestiniens seront libres de soulever des questions qui, selon eux, concernent la façon de faire réussir les élections. 5. Afin de faciliter le processus, les États-Unis proposent que les ministres des Affaires étrangères d'Israël, d'Égypte et des États-Unis se réunissent à Washington dans les 2 semaines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan Baker. Donc le secrétaire d'État américain qui s'était juré de 1. De ne jamais faire de navette et 2. De ne jamais proposer de plan, a déjà cédé sur la première chose, il commence à proposer un plan. Il suit donc la même logique que tous ses prédécesseurs et éventuellement de ses successeurs qui seront toujours conduits à aller beaucoup plus loin dans le dossier qu'ils ne voulaient au départ. Pour Baker, son plan est raisonnable, donnant virtuellement à Israël un droit de veto sur la composition de la délégation palestinienne et aux Palestiniens celui d'évoquer le statut permanent des territoires, ce qui implique inévitablement une forme de retrait israélien. L'attitude de l'OLP est prudente. Lors de la tenue du Conseil central à Bagdad le 15 octobre 1989, Elle appelle à résister fermement à la politique américaine sans mentionner les 10 points de Moubarak et les 5 de Baker. On réaffirme le droit des Palestiniens à choisir librement leurs représentants et le dialogue israélo-palestinien doit être le prélude à des négociations pour un règlement global dans le cadre d'une conférence internationale. Shamir et Arendt veulent obtenir une modification de 5 points, mais la diplomatie américaine ne veut pas céder, car immédiatement les Égyptiens procéderaient à une demande analogue. Des messages dans ce sens sont adressés par divers canaux à Israël. On discute donc de la possibilité d'assurance américaine complémentaire des 5 points. Il s'agit d'éviter catégoriquement toute participation de l'OLP et de limiter l'ordre du jour aux élections palestiniennes. Washington ne cache pas son irritation croissante devant les tergiversations israéliennes. En permanence, le Likoud soupçonne les travaillistes de négocier secrètement avec les États-Unis et de vouloir mettre fin au gouvernement d'union nationale en se présentant aux élections avec un plan de règlement endossé par les Américains. C'est Kissinger qui disait que Israël n'a pas de politique étrangère, elle n'a que toujours qu'une politique intérieure. Il est vrai que Rabin discute directement avec les Américains. Il est prêt à accepter une participation des habitants arabes de Jérusalem aux élections palestiniennes, ce qui créerait le précédent de voir des Arabes vivant en Israël et n'étant pas citoyens israéliens voter dans des élections à l'extérieur d'Israël. Pour Arendt, c'est impensable, car ce serait admettre que le statut de Jérusalem soit négociable. Dans ses mémoires, James Baker assimile le processus de paix à un kabuki diplomatique, voulant probablement signifier par là un jeu d'acteurs particulièrement codifié et finalement assez incompréhensible, au moins pour un public occidental. Pendant ce temps, l'histoire continue de se dérouler. Au Liban, la médiation arabe aboutit à la réunion du Parlement libanais à Taïf, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, afin de voter une réforme constitutionnelle qui mettrait fin à la guerre civile. Le Hezbollah et Michel Aoun s'opposent à tout règlement imposé de l'extérieur. Après 23 jours de réunion, le 22 octobre 1989, un nouveau pacte national libanais est voté. Il aménage le confessionnalisme en modifiant la répartition des fonctions entre les communautés. Le document prévoit le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des territoires libanais en appliquant la résolution 425 qui abolit totalement l'occupation israélienne et il prône aussi le rétablissement de la convention d'armistice du 22 mars 1949. Ça a toujours été la revendication libanaise que la convention d'armistice était toujours valide alors qu'Israël l'avait dénoncée en 1967. Ce qui implique, je cite, « l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour libérer le territoire libanais de l'occupation israélienne » et pour étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en déployant l'armée libanaise dans la région frontalière, reconnue internationalement, et en renforçant la présence de la FINUL au Liban Sud, afin de pouvoir assurer le retrait israélien et d'établir la sécurité et la stabilité de la région frontalière. Michel Aoun rejette immédiatement cette capitulation, qui comprend le maintien de relations privilégiées entre le Liban et la Syrie. Le Hezbollah exprime son rejet de la perpétuation du confessionnalisme. Le PSP, le Parti socialiste progressiste de Walid Jumblatt, s'en tient à la défense de la laïcité, mais ne s'oppose pas à l'accord. En dépit de ces oppositions, les députés libanais élisent le 5 novembre 1989 un député du Nord-Liban, René Mohawad, à la présidence de la République. Mais Aoun refuse de reconnaître son autorité. Il contrôle le palais présidentiel et l'essentiel de l'armée libanaise et organise un puissant mouvement populaire de soutien à sa cause. Animo Awad charge Salim El-Ross de former un nouveau gouvernement, mais il est victime d'un attentat le 22 novembre qui fait 24 morts. Immédiatement, les parlementaires désignent pour lui succéder Elias Sahraoui, qui réussit à former un gouvernement d'union nationale qui isole politiquement Michel Aoun. La population du réduit chrétien se mobilise en sa faveur par d'impressionnantes manifestations de masse. Les forces libanaises qui sont hostiles à Michel Aoun sont complètement débordées. Par ailleurs, les affrontements entre Hamal et Hezbollah se poursuivent pour le contrôle de la communauté chiite et sur la question de la position à prendre face à l'accord de Taif. Quand on parle de guerre civile libanaise, il faut parler au pluriel, puisque vous pouvez avoir deux ou trois guerres civiles en même temps au Liban, à l'intérieur et à l'extérieur des communautés en jeu. En Jordanie, le roi Hussein tient pour la première fois depuis 22 ans des élections relativement libres, même si les partis d'opposition interdits n'ont pas le droit de faire campagne. Il y a peu de candidats palestiniens et l'OLP se tient soigneusement à l'écart. Les frères musulmans et leurs alliés remportent le 8 novembre 31 des 80 sièges du Parlement jordanien. La gauche et les nationalistes arabes n'ont que 8 sièges. Le roi, qui conserve des pouvoirs importants, se déclare satisfait des résultats. Il est vrai que, contrairement aux autres pays arabes, la monarchie hachémite a souvent fait de la confrérie un allié politique et n'a jamais cherché l'affrontement violent avec les frères musulmans. Il y a une espèce de partenariat et de compétition entre la monarchie et les frères musulmans, c'est encore valable aujourd'hui. Mais en tout cas, en Jordanie, il n'y a pas ce qu'il y a dans les autres pays, c'est-à-dire le souvenir de répressions terribles, d'assassinats, de condamnations à mort, comme il y a en Égypte, en Syrie, en Irak, et ainsi de suite. Il n'y a pas de souvenir de répression, ce qui rend très différent le jeu politique entre les frères musulmans et la monarchie. Ceci est aussi valable aujourd'hui qu'en 1989. La Syrie prend acte des différentes évolutions internationales. L'Union soviétique a réduit considérablement son aide militaire et fait comprendre qu'il est impensable d'arriver à une parité stratégique avec Israël. Damas, à la fin décembre, renoue les relations diplomatiques avec l'Égypte, ce qui inquiète l'Irak et l'OLP, mais satisfait la Jordanie. Dans les territoires occupés, le village chrétien de Beit Saour mène une résistance non violente exemplaire à l'occupation et est soumis à de très dures représailles de l'armée israélienne. Devant le refus de payer les taxes, les biens les plus courants des habitants sont confisqués. Le village est totalement coupé de l'extérieur afin d'interdire tout témoignage de la presse internationale. La vigueur de la répression marque l'échec de la désobéissance civile, en dépit de l'héroïsme de la population, mais elle pousse l'intifada à se militariser, les groupes de jeunes étant le fer de lance des manifestations. Les collaborateurs sont pourchassés et assassinés. À ce moment-là, plus de 13 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. C'est durant cette période, semble-t-il, qu'Israël a recours de façon systématique à des assassinats ciblés d'activistes palestiniens. Cela permet d'éviter des confrontations directes avec la population tout en rétablissant la peur. Des véritables escadrons de la mort, composés de militaires israéliens déguisés en arabes, s'infiltrent dans la population palestinienne pour effectuer ces exécutions. Leur existence ne sera reconnue officieusement qu'en 1991, à la suite d'un reportage de la télévision israélienne. Ces actes rendent plus difficile de faire le décompte entre liquidation de collaborateurs, règlement de comptes locaux et assassinats ciblés. En Allemagne de l'Est, les manifestations se succèdent pour mettre fin au régime communiste, tandis que les régimes politiques des démocraties populaires se libéralisent de plus en plus. Au début du mois de novembre, le mouvement devient irrésistible. Dans la nuit du 8 au 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. La commotion mondiale est considérable et met pour un temps les affaires du Moyen-Orient au second plan. Il va falloir gérer le plus délicatement possible la fin des démocraties populaires et la réunification allemande, autrement dit, régler définitivement l'héritage de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide. D'ailleurs, au sommet de Malte, les 2 et 3 décembre 1989, Bush et Gorbatchev proclament que la guerre froide est terminée. Donc, quand on cherche à avoir une date terminale pour la guerre froide, on met soit la chute du mur de Berlin, soit la fin de l'Union soviétique en 1991. Mais on peut dire aussi que c'est le sommet de Malte, puisque les deux superpuissances ont convenu ce jour-là que la guerre froide était terminée. C'est dans ce contexte que l'intifada entre dans sa troisième année. Bush et Baker sont exaspérés par la tactique dilatoire de Shamir, mais ne peuvent se permettre une confrontation directe avec le gouvernement israélien. Les Israéliens semblent pouvoir s'accommoder de la poursuite d'un conflit à basse intensité. Le niveau de vie de la population des territoires s'est effondré de moitié, tandis que le coût économique de l'occupation pèse de plus en plus lourd sur les finances israéliennes. Une guerre parallèle se déroule au Liban, où les Israéliens continuent leur raid sur les positions dites terroristes et où les différents mouvements de résistance mènent la lutte contre les forces d'occupation. Le théâtre d'ombre diplomatique se poursuit. Bush presse Shamir de moins appliquer son propre plan, mais en vain. Les Égyptiens marquent cet à l'ONP de désigner la représentation palestinienne et se font rappeler à l'ordre par les Américains, pour qui la centrale palestinienne doit au mieux se tenir dans les coulisses. Le Caire accepte formellement les 5 points de Baker sans y ajouter des éléments supplémentaires le 6 décembre 1989. Les travaillistes israéliens continuent leur diplomatie parallèle. Ezer Weizmann, passé du Likoud au socialiste, prend des contacts directs avec l'OLP, ce qui est interdit par la loi israélienne. Shamir le démet le 31 décembre 1989 de ses fonctions de ministre de la Science, d'où une crise politique. Pour sauver son gouvernement, Shamir adoucit la sanction. Weizmann sera simplement exclu du cabinet restreint où se prennent les décisions essentielles en politique intérieure et étrangère. Comme je l'ai dit, en Israël, il est difficile de faire la distinction. La déliquescence du système soviétique s'accompagne d'une ouverture vers Israël. En 1989, les relations consulaires ont été reprises entre les deux pays sous couvert de représentation des pays amis. Moscou a d'abord voulu s'en tenir à des relations purement techniques sans aspect politique, puis a accepté d'élever le niveau des discussions. Au sommet de Malte, Gorbatchev, pressé par les Américains, a laissé entendre qu'il était prêt à accepter la reprise des relations diplomatiques. Surtout, le régime déclinant a diminué les restrictions sur l'immigration des Juifs soviétiques. Plusieurs milliers d'entre eux ont pu partir en 1989, dont un peu plus de 12 000 à destination d'Israël. Après la chute du mur de Berlin et avec la dépendance accrue de l'économie soviétique en plein effondrement envers les aides occidentales, il devient clair que l'on doit s'attendre à un mouvement d'immigration de masse à partir de 1990, alors que les États-Unis limitent l'entrée sur leur territoire aux Juifs soviétiques, puisque ils étaient acceptés en tant que réfugiés politiques. Mais maintenant que l'Union soviétique se libéralise, on n'admet plus que ce sont des réfugiés politiques. Donc on ne peut plus facilement demander l'asile politique. La seule limite est la capacité d'absorption de l'économie israélienne, et Shamir a essayé d'obtenir une contribution accrue de la communauté juive américaine pour faire face aux défis. La pensée profonde de Shamir est exprimée le 14 janvier 1990 devant les militants du Likoud. La nouvelle Alia, vague d'immigration, va tout résoudre comme tous les miracles qui ont toujours sauvé le peuple juif. Cette grande immigration nécessite un grand Israël. Je cite, « Nous avons besoin d'espace pour héberger tous ces gens. Dans 5 ans, nous ne pourrons même plus reconnaître le pays. Tout aura changé, les gens, la manière dont ils vivent, et tout sera plus grand et plus fort. Autour de nous, les Arabes sont en plein désarroi, en état de panique. Ils sont submergés par un sentiment de défaite parce qu'ils voient que l'intifada ne sert à rien, ne peuvent arrêter le flot naturel du peuple juif vers sa patrie, et après tout, c'est bien ce autour de quoi tourne le conflit. » Fin de citation. Cette déclaration provoque la colère, exprimée seulement en privé, de Becker. C'est à ce moment-là que Rabin, de visite aux États-Unis, présente une proposition de compromis. La délégation palestinienne pourra comprendre des habitants de Jérusalem à condition qu'ils soient originaires de Cisjordanie et des Palestiniens de diaspora dont les noms figurent sur les registres civils de Cisjordanie et qui ne font partie d'aucune organisation de l'ONP. Becker téléphone immédiatement à Shamir pour savoir s'il a entendu parler de cette proposition et s'il ne s'oppose pas à ce qu'on la transmette aux Égyptiens. Le chef de gouvernement israélien s'exprime positivement dans ce sens. Les Égyptiens sont alors informés et acceptent le compromis de Rabin. Une fois l'accord du Caire obtenu, ce qui veut dire l'aval de l'ONP, Becker revient vers Shamir qui recommence à tégiverser. Il faut d'abord en parler à Arens. Le secrétaire d'État s'exécute. Le ministre israélien des Affaires étrangères ne cache pas son amertume d'avoir été doublé par Rabin. Il en renvoie sa réponse à la convocation d'une réunion trilatérale égypto-américano-israélienne à la fin février, après la tenue du comité central du Likoud, puis de la réunion du gouvernement israélien. Bien entendu, la presse israélienne, durant tout le mois de janvier, a donné les détails de tous ces entretiens que Shamir et Arens découvrent seulement à la fin du mois. La particularité israélienne, c'est que pratiquement tout le contenu des discussions politiques est rendu public par la presse. Alors, c'est un peu la schizophrénie israélienne, c'est que les ministres ne sont pas au courant de ce qui est dit dans la presse. Mais je discutais avec des anciens ambassadeurs de France en Israël, ils disaient que Israël était un pays merveilleux puisqu'on savait tout dans les 3 jours. Ce qui, pour rédiger le télégramme diplomatique, était tout à fait pratique pour les diplomates de carrière. Il suffisait d'ouvrir les journaux. Au Liban, alors que les médiations se sont multipliées pour éviter un affrontement entre les deux gouvernements, Aoun lance au début de février 1990 l'attaque contre les forces libanaises qu'il croit pouvoir éliminer rapidement. C'est une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile et un véritable suicide politique pour le camp chrétien où les combats sont d'une rare violence et les pertes humaines et matérielles considérables. Le 4 février, en Égypte, sur la route entre Ismaïlia et le Caire, un autocar de touristes est victime d'un attentat. Le bilan est lourd, 8 touristes israéliens sont tués et 19 autres blessés. L'opération est revendiquée par un mouvement islamiste, par le FPLP-CG d'Ahmad Jibril et par des mouvements inconnus. L'OLP dénonce la perte des vies humaines innocentes qui ne sert qu'aux ennemis d'une paix alors que le Hamas célèbre le fait d'armes. La fraction dure du Likoud exploite la situation, multiplie les attaques anti-égyptiennes et appelle à la fin du dialogue tripartite égypto-américano-israélien. L'inquiétude commence à se répandre dans le monde arabe face à la vague d'immigration des Juifs soviétiques. Le roi Hussein appelle à une position arabe unifiée pour faire face à ce danger qui fait boule de neige. Le gouvernement Shamir dément l'intention de vouloir installer les nouveaux arrivants dans les territoires. Ils sont libres, dans le cadre du rassemblement des familles, de s'installer dans l'ensemble d'Israël, y compris dans les colonies de peuplement des territoires occupés. Pour Shamir, il n'y a qu'une seule terre d'Israël. Il n'existe pas de territoire occupé car nul ne peut occuper une terre qui lui appartient. De fait, peu de juifs soviétiques choisissent les colonies. Ils préfèrent les grandes agglomérations urbaines. Le comité central du Likoud, le 12 février, se déroule dans la plus grande confusion. Sharon accuse Shamir de brader la sécurité du peuple juif et de provoquer la division de Jérusalem et démissionne du gouvernement. Shamir conserve le soutien de la majorité du parti, mais sa position est affaiblie, ce qui lui permet, face aux plus radicaux que lui, d'apparaître comme un centriste. Néanmoins, les travaillistes menacent de quitter le gouvernement d'Union nationale si on refuse d'entamer des négociations de paix. Pour le Premier ministre, rien ne presse et on peut continuer d'ergoter sur les questions de procédure sans prendre de décision définitive. Les entretiens d'Arendt à Washington le 23 février sont difficiles. Il veut obtenir l'assurance que la liste des Palestiniens composant la délégation des négociations ne comprend aucun représentant de Jérusalem ou de la diaspora, mais aucun engagement n'est pris. Becker s'en tenant à la formule d'un résident des territoires ayant un second appartement ou un bureau à Jérusalem. Le 1er mars, Becker déclare à la Commission des finances de la Chambre des représentants que les États-Unis n'accorderont pas un prêt de 400 millions de dollars à Israël pour la réinsertion des Juifs soviétiques tant qu'Israël ne mettrait pas un terme à la création de nouvelles colonies et ne préviendrait pas toute installation de nouveaux immigrants dans les territoires occupés. Le 3 mars, Bush confirme que Jérusalem-Est fait partie de ces territoires. Benjamin Netanyahu, vice-ministre des Affaires étrangères, accuse les États-Unis de mener une politique fondée sur la distorsion et le mensonge. Furieux, Becker lui interdit tout contact avec le département d'État, mesure ensuite limitée à sa propre personne. Shamir tente d'obtenir une position unifiée des ministres du Likoud, mais les réticences sont fortes sur le principe même des négociations. Le 6 mars, on s'accorde quand même sur une forme d'ultimatum adressé aux travaillistes. En aucun cas, les Palestiniens de Jérusalem ne devront participer à d'éventuelles élections en Cisjordanie et à Gaza, pas plus qu'ils ne pourront faire partie de la délégation palestinienne. Dans une éventuelle rencontre, la délégation israélienne quittera immédiatement la salle des négociations si ses interlocuteurs se présentent ou se comportent comme des représentants de l'OLP. Peres y voit un affront et Rabin une injure personnelle. Après tout, c'est sur son commandement que l'armée israélienne a conquis Jérusalem-Est. Rabin s'éloigne de Shamir et fait cause commune avec Peres. Il rappelle aussi son attachement au plan Alon comme solution au conflit. Le gouvernement d'Union nationale est paralysé et les partis religieux deviennent les arbitres de la crise. Les travaillistes déposent une motion de censure pour le 15 mars, mais le 13 mars, Shamir destitue Peres, ce qui provoque le départ du gouvernement des ministres travaillistes. Le but de la manœuvre est qu'en cas de chute du gouvernement, d'empêcher les travaillistes de conserver leur place dans le gouvernement de transition. Le 15 mars, la Knesset vote la motion de censure par 60 voix contre 55 grâce au vote dans ce sens du parti Chasse. Peres est chargé de former le nouveau gouvernement. Tout dépend des partis religieux. Travaillistes et Likoud s'engagent dans de multiples tractations et marchandages pour obtenir le soutien des petites formations. Indépendamment des rivalités de personnes et de la lutte pour le pouvoir, l'antagonisme entre le Likoud et les travaillistes sur le processus de paix a une forte dimension symbolique et une moindre définition territoriale. Pour le Likoud, Israël doit avoir les territoires et la paix, et le mieux qu'on puisse proposer aux Arabes est l'autonomie de personnes et non de territoires, ce qui est envisagé selon la version israélienne de Camp David, mais jamais considéré sérieusement dans son application. L'intégralité de la terre d'Israël ne peut être mise en cause. Si Arendt semble avoir réellement cru à la voie diplomatique, ce n'est pas le cas de Shamir, qui a fait que gagner du temps en multipliant les réponses dilatoires aux Américains, d'où la profonde exaspération de Bush et de Becker. Pour les travaillistes, on est prêt à un échange de territoires contre la paix, mais dans la continuité du plan Alon, avec cette fois éventuellement un interlocuteur palestinien complaisant. Si la portée symbolique est considérable puisque c'est la définition même de la terre d'Israël qui est en jeu. La différence sur le terrain est faible, puisqu'il ne s'agit que d'une série d'enclaves palestiniennes sous contrôle militaire israélien. Et dans cette année 1990, qui paraît une année de libération dans la foulée du grand mouvement de 1989 en Europe de l'Est, commence à émerger une nouvelle montée des périls. Dès le début de 1990, le comportement de l'Irak commence à inquiéter. Au lieu de se lancer dans un processus de reconstruction après la première guerre du Golfe, le régime de Saddam Hussein prend un ton de plus en plus militant. Le 5 janvier, le président irakien définit sa politique de dissuasion par rapport à une nouvelle attaque israélienne dans le genre de celle d'Irak. Je cite, « Nous riposterons avec tous nos moyens et réagirons fermement à toute tentative de la part d'entités sionistes de bombarder les installations scientifiques ou militaires irakiennes en vertu de notre droit de légitime défense. Au cas où Israël lancerait une telle agression, les États-Unis ne pourront pas nier d'avoir encouragé Israël à mener ce genre d'opération. » Fin de citation. Il fait allusion au nucléaire israélien. Je cite, « Que les pays soucieux d'instaurer la sécurité et la stabilité dans le monde lutte contre la prolifération des armes et qui lutte contre la prolifération des armes destructives œuvre sincèrement pour y mettre fin dans cette région du monde. » En mars, la coordination croissante entre les armées jordaniennes et irakiennes inquiète le gouvernement israélien qui retrouve le discours des années 1950 sommant la Jordanie de ne pas autoriser le stationnement de troupes irakiennes sur son sol. Un journaliste britannique d'origine irakienne, Farhad Bazoft, qui enquêtait sur une explosion dans une usine d'armement irakienne, est condamné à mort et exécuté le 15 mars 1990, en dépit des appels à la clémence venus des pays occidentaux. Il aurait avoué avoir travaillé pour les services de renseignement britanniques et israéliens. À la fin mars, 5 personnes sont arrêtées à Londres pour avoir tenté de se procurer des pièces essentielles à la constitution d'un détonateur nucléaire pour le compte de l'Irak. Le président Bush exprime sa profonde préoccupation pour le danger de prolifération d'armes nucléaires au Moyen-Orient. La réplique du président irakien le 2 avril fait monter la tension. L'Irak n'a pas besoin d'armement nucléaire. Il dispose d'armes chimiques puissantes capables de détruire la moitié d'Israël en cas d'attaque israélienne sur son territoire. Rabin, démissionnaire, répond qu'Israël dispose de la réponse adéquate aux menaces irakiennes et frapperait 10 fois plus fort en cas d'agression irakienne. On est d'un côté dans un dispositif de dissuasion réciproque dans la logique de l'ancienne guerre froide, mais de l'autre, la menace de détruire Israël ravive le spectre de la Shoah, avec en particulier l'usage de gaz mortel, tout en faisant de l'Irak le héros populaire de champion de la lutte contre l'État hébreu. Les archives irakiennes, confisquées par les Américains en 2003, permettent d'avoir une vue plus claire des intentions de Saddam Hussein. Il considère qu'Israël est un danger mortel pour l'Irak et le nationalisme arabe et qu'il lui reviendrait en tant que chef de la nation arabe de mener la bataille victorieuse qui libérait les territoires occupés en 1967, voire plus. Il a aussi la conviction que l'État hébreu aurait recours à l'arme nucléaire contre l'Irak, éventuellement de façon préventive. Il lui faut donc neutraliser l'armement nucléaire israélien en se dotant de moyens de dissuasion constitués par les armements chimiques afin de contraindre l'ennemi à se limiter aux armements classiques. Il n'a jamais été question de lancer une première frappe d'armes de destruction massive puisque la logique de dissuasion s'exerce dans les deux sens. Par ailleurs, la guerre contre Israël est toujours restée à l'état de simple projet puisque la Syrie bassiste est le grand adversaire arabe et que la Jordanie du roi Hussein, tout en étant un allié précieux, n'aurait pas permis de voir son territoire se transformer en champ de bataille. Oui, c'est bien quand un État ou un régime s'effondre, c'est qu'on peut disposer d'une partie de ses archives. Donc aujourd'hui, on a accès à une série d'archives irakiennes confisquées par les Américains, qui sont en train d'étudier. On a en particulier des heures et des heures de bandes magnétiques d'enregistrement de propos de Saddam Hussein à son entourage. Et les Américains sont en train d'exploiter ces sources. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite charge alors son ambassadeur à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, de jouer le rôle d'intermédiaire. Le 5 avril, Bandar arrive en Irak où il rencontre Saddam Hussein. Le président irakien reconnaît que son discours a été trop virulent et qu'il n'a pas l'intention d'attaquer Israël, mais simplement de créer une dissuasion afin d'éviter le renouvellement de l'attaque de 1981. Il charge l'ambassadeur d'en informer le président Bush et d'obtenir de lui une garantie qu'Israël n'attaquerait pas l'Irak. Bandar s'exécute. Bush se montre sceptique. Saddam Hussein fait savoir qu'il attend une réponse. Au bout de quelques jours, les Israéliens communiquent par le biais de la Maison-Blanche que si l'Irak ne les attaque pas, ils n'attaqueront pas les premiers. L'assurance israélienne est transmise directement aux Irakiens. Ces derniers ont ainsi obtenu la garantie qu'ils demandaient, mais la paranoïa du régime limite les effets d'une assurance pourtant demandée. Saddam Hussein axe sa propagande sur le droit des Arabes de disposer librement de leur armement afin d'assurer leur sécurité et de préserver leurs intérêts légitimes et sur la menace pour l'ensemble de la région que constitue l'immigration massive des Juifs soviétiques. La puissance militaire de l'Irak, en dépit de son considérable endettement dû à la guerre, lui permet de se poser en protecteur des intérêts arabes, remplaçant une Union soviétique qui paraît entrer en décomposition. L'Irak étend sa dissuasion au-delà de son territoire et annonce qu'il ripostera à toute agression contre un pays arabe. Saddam Hussein cesse d'être un rempart de l'Occident contre l'expansion du chiisme révolutionnaire pour devenir un élément de déstabilisation régionale dans les temps heureux de l'après-guerre froide. Les réactions occidentales de plus en plus hostiles alimentent la paranoïa habituelle de son régime face aux complots étrangers et le poussent dans une radicalisation croissante qui entretient le processus. La menace irakienne crée un semblant d'unité nationale en Israël. Peres croit pouvoir disposer d'une majorité de 61 voix sur 120 à la Knesset. Il a le soutien officieux de l'administration Bush. Le 11 avril, la défection inattendue de deux députés religieux met fin à ses espoirs, bien qu'il ait encore 2 semaines pour former un gouvernement. Le 26 avril, Peres doit céder la place à Shamir comme formateur du nouveau gouvernement. Durant la période d'intérim, ce dernier, débarrassé de la tutelle des travaillistes, a multiplié les annonces de création de nouvelles colonies en Cisjordanie et à Jérusalem. Il est mieux placé pour s'attirer les faveurs des religieux qui donnent un sens plus ou moins messianique à la colonisation. Dans la ville sainte, la politique de grignotage par des intermédiaires des biens arabes, accompagnée de diverses malversations, provoque une crise avec les églises chrétiennes qui ferment le 27 avril, en pleine période de pèlerinage de Pâques, l'île de Saint-Christien, en signe de protestation contre les agissements d'extrémistes juifs soutenus par le gouvernement israélien. Par solidarité, les dignitaires religieux musulmans ferment à leur tour l'accès aux grandes mosquées de Jérusalem. Shamir marque le sens profond de sa politique en enterrant définitivement le plan Baker le 28 avril. Les Israéliens n'ont pas plus besoin d'une rencontre prochaine avec des Palestiniens qu'ils ne voient d'utilité de se rendre au Caire. Il démontre ainsi qu'il ne croit pas au plan qui porte son nom ni à l'autonomie promise à Camp David. Peres fait justement de l'acceptation du plan Baker la condition pour la création d'un nouveau gouvernement d'union nationale paritaire. Par hostilité à son rival travailliste, Rabin lui est prêt à accepter un tel gouvernement afin de ne pas laisser le vrai pouvoir aux minorités extrémistes dont la participation est indispensable pour former un gouvernement de l'un des deux grands partis. Il fait ainsi allusion au parti Moledet, qui détient deux sièges à la Knesset et dont le chef, le général Rehavam Zevi, fait campagne sur le thème du transfert, expulsion des Arabes de territoire et promet de mettre fin à l'intifada en matraquant à la tête des manifestants, puisque la force est le seul langage que comprennent les Arabes. La crise gouvernementale, avec ses multiples marchandages et tractations, est très impopulaire. D'importantes manifestations de masse appellent à une réforme électorale qui corrigerait les défauts de la représentation proportionnelle. Arafat a beau engranger quelques succès diplomatiques, comme une rencontre avec l'ancien président Carter ou avec le pape Jean-Paul II, sa politique est dans l'impasse. Il ne lui reste plus qu'à appeler à la réunion d'un sommet arabe pour faire face aux dangers de l'immigration des Juifs soviétiques. Il est dans une totale convergence d'intérêts avec Saddam Hussein qui propose Bagdad comme lieu du sommet. La Syrie, qui opère un rapprochement politique avec l'Égypte, tente de s'y opposer. Malgré l'obstruction de Damas, le sommet est convoqué à Bagdad pour le 28 mai. Le 20 mai, un Israélien en uniforme de l'armée tue au fusil d'assaut 8 ouvriers palestiniens et en blesse une dizaine d'autres, dont plusieurs grièvement. La nouvelle du massacre se répand rapidement, provoquant une explosion de colère. L'armée israélienne boucle immédiatement les territoires. À la fin de la journée, le bilan s'élève à une quinzaine de morts. Le lendemain, on compte encore 4 morts dans la bande de Gaza. La colère s'étend aux Israéliens arabes, durement réprimés, en particulier à Nazareth et en Jordanie, où une importante manifestation palestinienne a lieu à Amman, ravivant le souvenir de Septembre Noir. Un forcené s'en prend à des touristes français en voulant venger un de ses proches tué lors du massacre. L'armée jordanienne doit faire face à de véritables émeutes. Le président Bush adresse une sévère mise en garde en Israël, lui demandant d'exercer une retenue maximale dans les territoires occupés. Il exprime sa sympathie aux familles des victimes et précise attendre l'émergence rapide d'un gouvernement israélien déterminé à faire avancer le processus de paix. L'OLP demande l'envoi d'observateurs de l'ONU pour protéger la population des territoires. Le groupe arabe à l'ONU demande un visa pour qu'Arafat puisse se rendre à New York participer au conseil de débat au Conseil de sécurité. Au terme d'un marchandage diplomatique, on se met d'accord pour transférer le débat au second siège de l'ONU à Genève. Et on arrive au sommet de Bagdad. La marche des événements conduit à une convergence croissante entre la déception palestinienne engendrée par l'impasse politique et les ambitions irakiennes. Depuis le début des années 1980, la Syrie est devenue de fait l'antagoniste arabe de l'OLP, tandis que la Jordanie s'est rangée du côté de l'Irak. Ainsi, dans le dernier épisode de la guerre civile libanaise, les Palestiniens et les chrétiens sont dans le même camp pro-irakien. Le 25 mai, devant le Conseil de sécurité, Arafat dénonce le terrorisme d'État israélien et la guerre d'extermination menée contre son peuple. Il met en garde du risque provoqué par une situation explosive dans une région où sont concentrés les armements nucléaires. Il demande une protection internationale de la population palestinienne et la convocation d'une conférence internationale. La session de Genève n'aboutit à aucune décision et le Conseil décide de reprendre ses travaux à New York, tandis que les territoires occupés se mobilisent à l'occasion de la tenue du sommet de Bagdad. Ce sommet s'ouvre le 28 mai, en l'absence de la Syrie, du Liban, de l'Algérie, alliés de la Syrie, et du Maroc, qui s'oppose au rôle que l'Irak veut s'arroger dans le monde arabe. Le message que George Bush adresse aux États arabes les appelant à la modération est dénoncé violemment par la presse irakienne. Devant le sommet, Saddam Hussein adresse un violent réquisitoire contre la politique américaine, qui porte la responsabilité première de la politique agressive et expansionniste pratiquée par l'État d'Israël. Saddam réitère sa menace d'avoir recours à des armes de destruction massive contre l'entité sioniste si celle-ci prend l'initiative d'une attaque contre l'Irak ou les autres pays arabes. Arafat dénonce les atermoiements, les hésitations et la confusion qui caractérisent le comportement des États-Unis. Je cite « Nous leur demandons d'approuver franchement la réunion d'une conférence internationale de paix au lieu de proposer des idées confuses qui ne font qu'encourager Israël à perpétuer son occupation. » Fin de citation. Il invite les pays arabes à faire face à la menace que constitue pour leur sécurité l'émigration des Juifs soviétiques en utilisant toutes les armes, y compris les sanctions, le boycottage économique, les pressions politiques et morales contre les États qui participent à cette immigration. Le roi Hussein fait appel à la solidarité arabe face à la situation économique catastrophique de son royaume qu'il affaiblit devant la menace israélienne. Abandonner la Jordanie, dit-il, c'est abandonner la Palestine. Hosni Moubarak tente de maintenir une position modérée, appelant à la suppression des armes de destruction massive au Moyen-Orient. Il refuse la logique de la peur suscitée par la question des Juifs soviétiques. Le même jour, une bombe explose dans un quartier populaire de Jérusalem-Ouest, faisant un tué et 9 blessés israéliens. L'opération est revendiquée par le djihad islamique et par un groupe dissident du Fatah basé à Damas. Il s'ensuit une émeute anti-palestinienne dans la vieille ville. Le 29 mai, à Bagdad, l'Arabie saoudite et l'Égypte tentent de limiter la poussée d'anti-américanisme au nom du réalisme. Elle ne pourrait que conduire au gel des négociations et bénéficier à l'immobilisme israélien. On va faire la pause maintenant, parce que j'aime bien vous laisser en pleine angoisse sur la fin du sommet de Bagdad, ce qui, évidemment, vous inquiète terriblement.